les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous, il est 16h à Ouagadougou, bienvenue au lendemain de la médiation des émissaires de la CEDEAO dans la crise au Burkina Faso. La société civile et l'opposition ont pris leur distance par rapport aux conclusions et sur le terrain, c'est loin d'être la calmie. Je vous propose de retrouver l'un de nos correspondants à Ouagadougou, Issa Napon.
Eh bien, Ouagadougou s'est réveillé ce matin comme les autres jours, depuis bientôt 5 jours avec la gueule de bois. Dans la fumée, des étrangers et des jeunes hurlant à notre passage leur désapprobation du projet d'accord concocté hier par la CEDEAO et dans lequel il y a des points sur l'amnistie et l'expulsion, des points dont ne veulent pas entendre parler les leaders de la société civile. Et au moment où je vous parle, les rues se vident à grande vitesse. Les commerces qui avaient osé ouvrir se ferment aussi, car l'information recoupée fait état de mouvements vers Ouagadougou, des garnisons de certaines villes de l'intérieur comme à Fada et Kaya, et aussi à Ouagadougou du Rasso, où nos correspondants nous ont confirmé donc le départ des troupes pour Ouagadougou. Alors une colonne blindée de Fada, selon une source aussi sur place, avait été accompagnée hors de la ville par un concert de klaxons de manifestants jugés sur leur moto. Si la population apprécie ce réveil des militaires du reste de l'armée, une question demeure, quelle sera réellement leur mission à ces régiments qui descendent sur la capitale. Et c'est ce que les insurgés, justement, attendent de voir. Issa Napon, Ouagadougou, Afrique.
Le projet d'accord de sortie de crise annoncé par les présidents Macky Sall et Yahi Bouni est nul et non avenu, selon l'un des leaders de la société civile burkinabé. Marcel Tankwano, le président du mouvement du 21 avril, considère que le peuple burkinabé n'est pas concerné par la proposition de la CEDEAO.
Nous ne sommes pas satisfaits de ces conclusions. C'est même pour la population burkinabé une honte pour l'Afrique, que le Burkina a voulu connaître sa démocratie, que des terroristes s'emparent du pouvoir et que de telles décisions soient données à une population insurgée pour libérer tous ceux qui sont contre l'Afrique, tous ceux qui sont dans l'ancien régime de Blaise Compaoré. Nous ne pouvons pas accepter cette feuille de route qui a été donnée au Burkina hier. Nous ne sommes pas du tout d'accord et à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, nous sommes déjà en lieu sûr. Toute la population est découragée, désolée, mais la population est partout, est manifeste partout. Dans la ville de Ouagadougou, dans les 6 mètres, dans les grandes voies, tout est barricadé, il n'y a pas de passage. Et cette décision que Macky Sall a proposée et Yahi Bouni, nous n'en sommes pas concernés. Le peuple du Burkina Faso n'est pas concerné et nous allons tout simplement libérer notre pays, comme ce que nous avons fait les 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso pour chasser Blaise Compaoré. Ces terroristes également, nous allons les chasser et ils vont aller très loin de notre pays.
Marcel Tankwano, président du mouvement du 21 avril.
VOA Afrique en direct de Washington.
Cap sur le Nigeria, au moins 54 personnes ont été tuées dans les attentats perpétrés par le groupe Boko Haram dimanche à Maïdigouri dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'a annoncé la police. Lucille Amon.
Les secouristes et les militaires affirment que 3 explosions ont eu lieu dans les quartiers Gomari et Alijari de Maïdougouri, mais des témoins disent qu'il y en a eu 4, dont une dans une mosquée et une autre bombe visait des civils qui regardaient un match de football. Un témoin affirme que la première bombe a fait au moins 6 victimes. Quelques minutes après, une deuxième explosion aurait fait 14 blessés, dont des enfants. Un autre engin aurait explosé dans une mosquée située dans un quartier populaire de Bintashugar. Depuis l'investiture du président Muhammadu Buhari le 29 mai dernier, une nouvelle vague de violence s'est étendue dans le nord-est du Nigeria. Le groupe Boko Haram a changé sa stratégie et a recours à des techniques de guérilla comme des bombardements ou des attentats suicides qui touchent maintenant le nord du Cameroun et le Tchad.
Au Mali, le processus de paix avance difficilement suite à l'insécurité découlant des attaques terroristes et des combats entre les milices pro-gouvernementales et la plateforme des ex-rebelles de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Notre correspondant à Bamako, Traoré Kassim, nous en dit davantage.
Le gouvernement multiplie les actions pour une meilleure application de l'accord de paix. C'est pourquoi il y a eu une rencontre du comité de suivi
Amadou Konaté, ministre malien chargé de la reconstruction des régions nord du Mali.
Nous savons une chose, c'est que tous les signataires sont intéressés à la bonne mise en œuvre des accords. Ils nous l'ont réaffirmé chaque fois qu'on s'est retrouvés. Mais ce qu'il y a, c'est que peut-être que tous les signataires ne sont pas préparés au même niveau à une bonne mise en œuvre des accords. Certains d'entre eux, hélas importants, sont distraits par des préoccupations qui, s'ils les mettaient de côté pour s'occuper de la mise en œuvre des accords, se verraient résolu de la meilleure manière.
Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le Kenya a commémoré ce lundi le deuxième anniversaire du massacre dans le centre commercial Westgate de Nairobi. Rouvert en juillet dernier, l'attentat avait fait 67 morts. Il a été revendiqué par les Shebab somaliens. Claire Morin-Jibou.
Le samedi 21 septembre 2013, à la mi-journée, au moment où le centre commercial est le plus fréquenté, quatre Shabab avaient pris d'assaut le Westgate Mall en lançant des grenades et en tirant au fusil d'assaut sur les clients et employés des nombreux magasins et restaurants. Lors de cette commémoration, les employés du supermarché Nakumat, où furent exécutées de nombreuses personnes, ont prié et allumé des bougies. Bien qu'ils aient tué sept personnes, ils n'ont jamais tué notre esprit, a souligné le responsable du supermarché, David Mutouri, assurant que le Westgate est sûr. Dimanche, les parents et amis des victimes avaient également prié devant le mémorial qui leur est dédié dans la forêt de Karura, à une dizaine de kilomètres du centre commercial.
En République démocratique du Congo, la crise entre la majorité présidentielle et le G7 s'accentue à Lubumbashi dans le Katanga. Certains membres du G7 ont présenté leur démission, d'autres se sont vus retirer leur service de sécurité. Décision qui a failli causer un accrochage hier entre des policiers et des militants de la JUNAFEC, la jeunesse de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Le point avec Naval Mabila, notre correspondant à Lubumbashi.
Kyungu Akumwanza, président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, président de l'UNAFEC, exclu par un autre groupe de l'UNAFEC, se voit retirer sa sécurité. Et les dimanches, il se retrouve encerclé par les hommes en uniforme alors qu'il était en basilique Sainte-Marie de la commune de la Kenya. La situation devient inquiétante et prêt à se dégrader entre les hommes en uniforme et les jeunes de la UNAFEC. La MONUSCO est descendue sur les lieux et la situation s'est dénouée à l'amiable. Devant ces militants, Kyungu Akumwanza n'a pas tardé à réagir alors qu'ils se sentent en insécurité.
Les commandants qui sont venus là-bas ont dit que les chefs de l'État les a envoyés pour enlever la garde chez moi. Je les dis, je remets ma sécurité entre les mains du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui a donné l'ordre qu'on enlève les policiers chez moi pour organiser un assassinat.
Ces événements se déroulent un jour après que Martin Kobler est venu faire ses adieux au Katangé tout en laissant un message.
La constitution doit être respectée. Vous avez notre plein soutien pour un processus crédible et transparent, mais aussi l'espace politique pour l'opposition, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, doit être gardé.
Silence radio de la part des officiers de la province du Katanga, Narval Mabila, Lubumbashi, VOA Afrique.
Et le pape a poursuivi sa visite à Cuba. Aujourd'hui, au programme, il a eu une messe à Holguín, le chef-lieu de province du même nom et région natale des frères Castro, et surtout l'un des foyers les plus anciens du christianisme en territoire cubain. Puis, avec un passage à Santiago de Cuba, ultime escale de son voyage dans l'île antillaise, le souverain pontife prend son vol demain pour les États-Unis, prochaine étape de sa tournée dans les Amériques. À son programme, des visites à Washington, New York et Philadelphie. Et puis, des milliers de sympathisants des rebelles chiites houthis se sont rassemblés ce lundi dans la capitale yéménite, Sanaa, pour célébrer sa conquête il y a un an, malgré les frappes aériennes de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Agitant des drapeaux yéménites noirs, blancs et rouges, les manifestants ont assisté dans une ambiance festive à un festival de chants et de danses folkloriques vantant la résistance des houthis face à l'agression saoudienne et dénonçant tour à tour les États-Unis et Israël. Les rebelles ont fait du 21 septembre, la date à laquelle ils ont conquis la capitale Sanaa en 2014, un jour férié, et incité la population à participer à la manifestation pour dénoncer aussi les agressions d'Israël sur l'esplanade des mosquées. Je vous le rappelle, le pape sera donc aux États-Unis demain pour son séjour dans les Amériques, son dernier séjour dans les Amériques. Washington, New York et Philadelphie seront ses principales destinations. Nous quittons nos auditeurs des autres.